Chronique coopérative en quarantaine numéro 4. Pourquoi être responsable du bien commun n'est pas commode.
Rubrique.coop, la voie coopérative.
Nous allons dialoguer aujourd'hui avec Denis Bourgeois, qui m'a proposé sa réflexion éclairante sur un aspect de la crise que nous vivons. Le coronavirus ne serait-il pas, malgré lui, malgré nous surtout, un exercice important de responsabilité vis-à-vis du bien commun pour les nuls que nous sommes? Denis Bourgeois s'est engagé très tôt en faveur de l'écologie, notamment au sein du mouvement Nature et Progrès il y a déjà 40 ans. Il a été un des fondateurs de la Fédération internationale des mouvements en faveur de l'agriculture biologique, l'IFOAM, dont il a été le premier secrétaire général. Denis Bourgeois est docteur en sciences de gestion. Il a appliqué les sciences sociales à la recherche dans le domaine de l'organisation, avec notamment comme champ d'intérêt les questions du sens et de l'éthique au travail. Il a également été co-directeur de la majeure Altermanagement d'HEC. Bonjour Denis.
Bonjour Hervé.
Lors d'un échange précédent, tu avais présenté cette catastrophe du coronavirus comme une opportunité de leçon, ou en tout cas d'entraînement à une responsabilité vis-à-vis du bien commun. En quoi cette épreuve te paraît représenter cet exercice?
Ce qui me frappe, c'est le discours que le gouvernement nous donne, c'est « il y a une urgence, on va à la catastrophe ». Et il nous faut réagir très vite et très fort, quoi qu'il en coûte. Et ce qui me frappe, c'est que ce discours-là, en fait, c'est celui qu'ils utilisent pour le coronavirus, mais c'est le même, ce sont les mêmes mots qu'emploient régulièrement des scientifiques pour nous avertir que les scénarios les plus pessimistes concernant le réchauffement climatique deviennent de plus en plus plausibles. Et ce sont les mêmes mots qu'utilisent des tas de lanceurs d'alerte pour nous avertir que, au-delà même du réchauffement climatique, c'est l'ensemble des conditions de survie de l'humanité qui, sur cette planète, qui est en jeu à travers des pollutions de toutes sortes, la disparition dramatique de la biodiversité. C'est toujours ce même discours. Mais alors, ce qui est frappant, c'est que pour le coronavirus, le gouvernement sait nous imposer des mesures drastiques, des mesures qui compromettre complètement nos habitudes et nos intérêts au jour le jour. Et pour ces autres sujets-là, bien que le gouvernement se fixe des objectifs, affirme l'importance de tout ça, eh ben il se passe rien. Et alors, pour moi, une des raisons pour lesquelles il y a cette différence dans les deux cas, c'est que dans le premier cas, il y a une sorte de responsabilité du bien commun qui est partagé par une grande majorité des gens, ce qui fait que le gouvernement peut se sentir légitime à imposer des mesures très contraignantes, ce qui peut ne pas être le cas pour les autres cas dont j'ai parlé, c'est-à-dire la survie à long terme de l'humanité sur cette planète. Finalement, ça illustre le fait que c'est pas si facile que ça de se sentir responsable du bien commun. Il faut vraiment des situations exceptionnelles.
Et peut-être aussi la difficulté de se projeter dans un temps plus lointain et dans des signes moins évidents de catastrophe pour l'ensemble de la population.
Et grosso modo, pour résumer l'idée qu'on peut développer un peu, c'est que pour le coronavirus, c'est plus facile de se sentir responsable du bien commun que pour d'autres questions plus complexes, plus incertaines, plus floues ou bien plus diluées dans le temps.
Ça peut être un apprentissage, mais du coup, quels sont les principaux obstacles, finalement, pour pouvoir se sentir responsable du bien commun? Pourquoi c'est difficile?
Justement, ça m'y a fait beaucoup réfléchir, ça. Bon, d'une part, de fond, on est quand même dans une culture de l'individu, d'une société d'individus sur lesquels notre économie repose, dans laquelle on baigne un peu comme le poisson dans l'eau sans même s'en rendre compte. C'est la croyance que chacun va poursuivre ses intérêts personnels et que c'est comme ça qu'on va atteindre le meilleur des mondes avec l'État qui s'occupera de colmater les brèches et de s'occuper du bien commun. Donc, même si c'est pas vrai pour tout le monde, c'est quand même une sorte de pilier de notre culture qui fait que le réflexe de responsabilité du bien commun n'est pas automatique chez beaucoup de monde. Oui. Après, y a plusieurs obstacles, même si on essaye de dépasser ça. Premier obstacle, c'est déjà de se rendre compte, de se faire une opinion de la situation. Que ce soit sur le coronavirus, sur le réchauffement climatique, c'est pas évident déjà de se faire une opinion, parce que déjà il faut épouser et écouter plusieurs sons de cloche, et les grands médias ne les diffusent pas tous, ces sons de cloche, mais même si on arrive à en écouter plusieurs, on se rend compte que rarement les scientifiques sont d'accord entre eux sur des sujets nouveaux, sur des situations inédites. Ce qui est logique, une sorte de débat entre les différentes écoles scientifiques. Donc, il faut arriver à trouver son chemin ou sa religion dans tout ça. Et puis aussi, il faut se méfier, ce qui est toujours possible, du fait que certains intérêts politiques, économiques, puissent essayer de faire prévaloir telle ou telle thèse. Donc, finalement, c'est pas facile déjà de se faire une idée.
Et d'avoir une représentation précise de la situation.
Voilà, réelle. Donc ça peut être tentant de refermer le dossier ou de se contenter du « dormez tranquille, braves gens » que certains médias ne manquent pas de diffuser. Quoi.
Donc d'abord, se faire une opinion. Et voilà. Si cet obstacle est franchi, en tout cas relativement, quel est le suivant?
Alors, il y en a d'autres. En supposant donc que cette personne soit rendu compte que oui, il y a vraiment une menace sur le bien commun, déjà il faut dépasser le réflexe de la préservation de son confort, de ses habitudes, de ce qui fait sa vie au quotidien, sans trop se casser les pieds pour ça. Mais si on arrive à dépasser ça, c'est d'autant plus pas facile, comme ça a été dit tout à l'heure, par le fait que si une situation est floue, on est beaucoup plus éthique, on va dire, soucieux des conséquences de son comportement, si les dommages qu'on peut créer sont d'une part liés à des personnes qu'on connaît, sont assez rapides à survenir, s'ils sont visibles, et si en plus on est seul dans l'action. Son action est mélangée avec celle d'autres. Si les victimes ou les dommages sont plutôt flous, reportés à 10, 20 ans, voire à des générations futures, qu'on ne les verra pas, c'est une sorte de tendance de la nature humaine, en tout cas pour la plupart d'entre nous, finalement d'y faire moins attention.
Il y a une dilution du sentiment de responsabilité, finalement.
Voilà. Et puis après, il y a encore autre chose, c'est que même si on essaie de dépasser ça, il y a ce qu'un économiste américain appelait, Mancur Olson, appelait les passagers clandestins. C'est-à-dire que à chaque fois que des gens font des efforts pour le bien commun ou des sacrifices, il y a d'autres gens qui en profitent mais sans rien faire.
Oui, même de façon outrancière comme aujourd'hui où on a par exemple arrêté une fille de pharmacienne qui avait volé les stocks de masques pour les revendre via...
Voilà, ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une réaction qui est de dire « Alors pourquoi moi je ferai des efforts si il y en a qui n'en font pas et qui en profitent ?» Alors, on peut dépasser ça, mais ça rejoint l'éthique du colibri, l'histoire qu'a si bien raconté Pierre Rabhi, c'est-à-dire avoir une attitude éthique qui est de dire « Quoi qu'il arrive, quoi que les autres fassent, moi je fais ma part. » Mais on voit quand même que c'est un empilement d'obstacles à franchir pour arriver à se sentir responsable du bien commun. Et donc, c'est pas étonnant que ce soit difficile pour la plupart d'entre nous et que, par conséquent, on détruise allègrement nos conditions de vie sur la planète.
Mais peut-être qu'il y a aussi l'attente d'une action politique et donc économique d'ensemble. Et cette attente...
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que souvent, pour résoudre des problèmes de cette ampleur, il faut aussi un ou des changements dans le système politique et économique. Mais on voit mal comment ces actions au niveau social ou politique au sens large pourraient réussir si elles ne s'appuient pas sur une majorité de la population qui se sent responsable du bien commun et qui est prête à en supporter les conséquences.
Est-ce que du coup, notre crise actuelle, hein, le coronavirus, représente un exercice pour débutants qui pourrait ensuite être utile par rapport aux autres défis qui nous attendent ou qui d'ailleurs ne nous attendent pas?
Ben voilà, oui, c'est ça que je disais au départ. C'est un bon exercice pour débutants. On peut considérer qu'on est débutant dans la responsabilité du bien commun. On part de loin. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a des exemples admirables, mais globalement, en tant que population de notre société contemporaine, on n'est pas très bon, avec toutes les raisons que j'ai expliquées. Et là, on nous propose un exercice qui est plus facile parce que un certain nombre des obstacles que je viens de citer sont atténués ou sont même escamotés, quoi. C'est-à-dire, par exemple, qu'on nous demande des changements de comportement, rester chez nous, mais ils sont provisoires. D'autre part, il y a, pour se faire une idée, c'est assez facile, c'est-à-dire qu'il y a une unanimité assez impressionnante des scientifiques, quelles que soient leurs opinions par ailleurs sur la façon de traiter le virus, etc., mais pratiquement tout le monde dit, en tout cas, il faut rester chez soi en ce moment, c'est la meilleure solution. En tout cas, bon, là, on est en train de parler, grosso modo, après 2 semaines de confinement. On verra peut-être si cette unanimité se fissure après, mais pour l'instant, ça crée moins de doutes dans les esprits. Et puis, le problème semble nous être tombé du ciel, entre guillemets. Il n'a pas été causé, je ne sais pas moi, comme une marée noire par des gens négligents qu'on pourrait identifier.
En par tout des cas, personnes responsables.
Pas aujourd'hui. Ouais.
Mmh. On ne peut pas attribuer la responsabilité à des personnes.
Voilà, en tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être on verra plus tard, mais aujourd'hui, tout ça nous aide finalement à accepter le confinement, et puis surtout le fait que si on ne le fait pas, ben on peut participer, ben déjà on peut en subir soi-même les conséquences, ou bien sa femme ou son mari, ou ses parents, enfin des gens proches, des gens qu'on connaît. Et puis l'effet va être, c'est pas dans 10 ou 20 ans, hein, c'est l'effet il peut être sous quelques jours. Donc tout ça nous aide à finalement nous conformer à des instructions qui sont au départ assez contraignantes.
Oui, contrairement.
Et c'est en ça que l'exercice est plus facile qu'il ne le serait, par exemple, s'il fallait très rapidement diminuer par deux l'empreinte carbone de notre mode de vie.
Ouais. Et contrairement à la crise financière de 2008-2009, les principaux responsables d'une certaine manière du dérèglement, enfin, n'étaient pas en contact à l'époque avec les personnes qui pouvaient en être le plus victimes. Donc il y avait une distance entre la responsabilité des actes et le cri des victimes. Là, on est tous, et on le voit bien, quel que soit le statut, sous la même menace, finalement.
Voilà. Et en plus, le tous est important, parce que on se rend compte aussi à quel point on est tous dans le même bateau, et où on a à être tous solidaires et où tout le monde est important, même des métiers qui souvent sont pas très estimés. Et ça, cette expérience-là, ben, on peut espérer, il est permis de rester optimiste, hein, on peut espérer que ce soit une sorte de graine semée dans l'esprit d'une bonne partie des gens, qui leur fasse prendre conscience que ben, on est tous dans le même bateau pour ça, mais aussi pour d'autres choses. Et qu'une société, c'est pas juste une collection d'individus qui se débrouillent pour suivre leurs intérêts, mais qu'il y a vraiment une responsabilité à avoir de la part de chacun. En tout cas, on peut espérer que cet exercice nous fasse progresser dans cette direction-là.
Cet exercice peut paraître radical, voire dramatique, hein, pour les personnes dans les situations les plus sévères. Mais quels pourraient être les moyens de consolider cet espoir, finalement, pour notre changement ou pour ce qui pourrait changer dans notre rapport à la responsabilité des biens communs?
Déjà, oui, c'est vrai, cette histoire. Vis-à-vis du confinement, on est loin d'être tous égaux. Hein. C'est plus facile quand on est dans une maison correcte, avec un jardin éventuellement, que quand on est entassé à je ne sais combien dans un logement exigu et insalubre. Parce que dans ce cas-là, on a peut-être plus de difficultés à se sentir solidaire d'une société dont on se sent exclu, quoi. C'est-à-dire que un des enseignements aussi de cette situation, c'est que, ou un rappel, c'est que trop d'inégalités sociales, ça tue cette solidarité dont on a besoin. Donc, à coup sûr, pour les défis futurs, c'est une chose à garder en mémoire.
Elinor Ekström disait, pour qu'il y ait des biens communs, il faut une communauté. Et peut-être que c'est ce sentiment de communauté, on pourrait dire élargi aujourd'hui au niveau de la planète, qui serait nécessaire de renforcer à travers l'épreuve pour pouvoir avoir une participation beaucoup plus large à la défense du bien commun général, qui est le côté vivable de notre planète.
Voilà, oui, tout à fait. C'est-à-dire que la version optimiste ou la vision optimiste de ce qui se passe en ce moment, c'est ça. C'est que ça peut nous aider à avoir peut-être plus profondément, ou plus ancré, ou plus largement diffusé dans la population, ce sentiment qu'on fait partie d'une communauté et qui a des biens communs à défendre et à protéger. On peut l'espérer, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça peut être ce signe positif.
Une des conséquences de cette aventure par d'autres aspects bien, bien dramatiques. Très
voilà,
bien.
Oui.
Merci beaucoup, Denis, pour cet échange, et puis à bientôt pour de nouvelles chroniques.
Eh bien, avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir, Hervé.